dans 18 ans.
Jacques Attali.
Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue à tous. Dans 18 ans, c'est donc le titre de cette émission qui vous accompagne cet été. Avec Jacques Attali, nous prenons le temps de penser à demain, de nous poser cette question. Que sera le monde quand les enfants qui sont nés en cette année 2019 auront atteint leur majorité? 18 ans à l'échelle du monde et des bouleversements qu'ils connaissent, c'est à la fois très proche et c'est presque pourtant déjà un autre monde, Jacques Attali.
C'est en effet un autre monde, parce que c'est en effet demain matin, mais c'est un autre monde parce qu'il va se passer tellement de choses prévisibles et imprévisibles qu'il faudra essayer de distinguer des tendances lourdes, inévitables, dont la démographie est une évidence, encore que des événements historiques qui peuvent être très changeants. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut, pour comprendre l'histoire, se servir de Marx pour voir les tendances lourdes et de Shakespeare parce que les passions des hommes changent tout. Alors, dans 18 ans, c'est déjà un peu moins Shakespeare et un peu plus Marx. Mais malgré tout, Shakespeare aura son mot à dire.
Shakespeare et Marx et aujourd'hui l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient. Nous essayons de comprendre quels sont les rapports géopolitiques qui seront à l'œuvre dans ces régions qui nous intéressent tout particulièrement. Et aujourd'hui, nous en parlons avec Marion Messador. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-directrice du programme Méditerranée du GEIGE, le groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure. Et avec vous, Michel Duclos, vous avez été diplomate, vous avez été ambassadeur au COPS à Bruxelles, vous avez été représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies, puis ambassadeur en Syrie de 2006 à 2009 et en Suisse. Aujourd'hui, vous êtes conseiller permanent du CAPS, le centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères et conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Vous venez de publier ce livre, La longue nuit syrienne, 10 années de diplomatie impuissante aux éditions de l'Observatoire.
Je voudrais juste rappeler, pour essayer d'animer notre conversation, les principaux chiffres, seule chose à peu près certaine, c'est-à-dire la démographie. Maghreb, aujourd'hui, 95 millions. 2040, 115 millions. Égypte, aujourd'hui, 95 millions. 2040, 135 millions. Israël, 8 millions aujourd'hui, 11 millions en 2040. La Palestine, telle qu'on peut la définir, 5 millions aujourd'hui, 8,3 en 2040. La Syrie, 19,32. L'Irak, 39,68. L'Iran, 81,91. Et je rappelle que la Chine sera à peu près stable à sa population d'aujourd'hui, 1,3 ou 1,4. Et l'Inde sera passée de 1,3 à 1,6. Et les populations d'Europe, de la Méditerranée du Nord, de la Méditerranée occidentale, disons riche, seront aussi à peu près stables au niveau où elles sont aujourd'hui, peut-être même un peu plus faibles en raison de la décroissance italienne et espagnole. Donc on a une évolution démographique qui est importante, mais pas gigantesque d'ici là. Et donc les données n'imposent pas des mouvements particulièrement importants. Parce que s'il y a des changements importants, ils sont plutôt en dessous, dans le Sahel, et c'est ce qu'on peut craindre pour la Méditerranée, en tout cas prévoir, c'est qu'il y a une perspective où la Méditerranée devienne un lieu d'immenses mouvements, c'est ce que craignent certains, liés aux populations du Sahel qui auront traversé l'Afrique du Nord pour venir vers l'Europe du Nord, ou celles qui viendront par l'Asie, comme on l'a vu, et qui arrive par la Turquie et par la Grèce vers l'Europe occidentale. Est-ce que pour vous, de cette perspective démographique, de grands mouvements qui transforment la Méditerranée en une sorte de lac de passage, dans lequel il n'existe aucune flotte pour les arrêter, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en ait, ou la 6e flotte américaine est totalement invisible, ou la flotte européenne n'existe pas, comment vous voyez cette perspective-là?
Peut-être d'abord pour la région méditerranéenne, qui est celle que je connais le mieux, vu que vous avez aussi parlé de Chine et d'Inde. Il faut distinguer quand même des situations assez différentes entre le Maghreb, qui aura terminé sa transition démographique en 2050 et qui donc va connaître le vieillissement comme l'Europe, et l'Égypte et Israël notamment, qui ont une politique nataliste et qui en fait avaient enclenché un mouvement de transition démographique et sont en train de repartir sur un modèle plutôt original et nouveau. Et en un sens, vous dressez une perspective assez effrayante, peut-être, de cette grande migration incontrôlée. Si on le prend d'un point de vue plus positif, c'est certainement un support de coopération assez importante entre les deux rives de la Méditerranée, en tout cas Maghreb et Europe, qui vont être confrontés finalement aux mêmes enjeux, puisque le Maghreb n'est plus tellement un lieu de départ, mais un lieu de transit. Et c'est en ce sens, un entretien que nous avons réalisé récemment avec le maire de Palerme montrait que les politiques d'intégration avaient été extrêmement bénéfiques pour les territoires. Alors je conviens qu'il y a toujours une question de mesure et peut-être que vous pourrez vous exprimer sur comment on gère la mesure, on introduit de la mesure. Mais il y a quand même des opportunités derrière ce grand mouvement démographique qui se profile.
Loin de moi de le voir de façon cauchemardesque, au contraire. Mais c'est d'en comprendre les dynamiques ou les probabilités. Comment vous voyez ça ?
C'est peut-être l'occasion d'introduire un paramètre dans notre discussion. C'est que dans tout scénario pour les relations internationales, à l'avenir, il y a toujours une variante coopérative et une variante conflictuelle. Et au fond, la juxtaposition d'un Maghreb et surtout effectivement d'un Proche-Orient en croissance démographique mais pas gigantesque et d'une Europe en décroissance démographique, ça peut être l'occasion d'un contrat positif,
ce
un
qui
contrat
n'est pas le cas
bénéfique
aujourd'hui.
pour les deux parties. C'est pas le cas aujourd'hui parce que pour plein de raisons, parce que effectivement en Europe, on est plutôt dans une phase de crispation. Et de l'autre côté de la Méditerranée, ils n'en sont pas encore arrivés au point où la coopération est possible. Mais l'œuvre des politiques ou des gouvernements, et même aussi d'ailleurs des responsables indépendamment des gouvernements, c'est d'essayer de favoriser cette convergence. Pour moi, il y a un pays qui est plus difficile que les autres, qui est l'Égypte. Parce que, effectivement, là, on peut craindre ce qui ressemble quand même à une explosion démographique. Il y a des facteurs aussi climatiques qui sont effrayants. Le Nil est en train de se réfracter.
Et l'Éthiopie en prend sa part plus que par le passé.
L'Éthiopie, les zones cultivables deviennent de plus en plus restreintes. Et par ailleurs, on ne peut pas dire que la société civile trouve la possibilité de s'épanouir. Si l'Égypte explose, ça aura en plus un effet déstabilisant fantastique sur l'ensemble de la région. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a énormément d'Égyptiens, etc. Mais ça, c'est un peu le scénario conflictuel. On peut imaginer aussi un scénario coopératif.
Et justement, est-ce qu'on pourrait dire qu'avec la disparition, par exemple, des baby-boomers et donc d'un souvenir colonial, le discours politique sur cette migration, qui aujourd'hui est plutôt alarmiste, alors qu'en réalité, vous l'avez dit, l'Europe a des besoins même démographiques, puisse évoluer, changer de ce point de vue-là ?
Je ne suis pas sûre que le discours alarmiste soit seulement le fait de la génération du baby-boom. C'est peut-être plus intergénérationnel que ça. Et il faut du temps pour que les Européens, notamment, progressent peut-être sur cette question. Par contre, je pense que la diplomatie, voire l'intervention militaire française, européenne, sur le continent africain, est amenée à changer profondément avec le départ de cette génération, qui en effet a construit son référentiel géopolitique dans une géopolitique française-européenne complètement différente.
Mais il y a deux scénarios, en effet, contrastés, si on vise une photographie de 2037-38. Le premier scénario, c'est le scénario d'une France qui se retire d'Afrique et un Sahel qui devient chaotique et un Sahel dont la population va doubler dans cette période, enfin presque doubler, donc c'est là où se trouve l'expansion démographique la plus forte et avec une impossibilité de faire vivre ces gens-là sur place, qui iraient soit vers les côtes africaines du Sénégal, Côte d'Ivoire et toute cette région, soit vers le nord, avec un blocage qu'on peut imaginer d'une armée algérienne, marocaine, qui tire sur les gens qui montent, mais qui arriverait à passer. Et donc une situation extrêmement conflictuelle dans 18 ans, avec une Algérie qui se tournerait plutôt contre son sud plutôt que vers son nord. Et une Europe qui resterait crispée parce que elle resterait dans une hostilité. Et une deuxième scénario, où on aurait en effet la prise de conscience de l'intérêt réciproque, l'ouverture réciproque, peut-être même une Euro-Méditerranée qui en viendrait à concurrencer l'Union européenne dans une intégration qui a été rêvée, qui d'ailleurs a une dimension assez largement francophone, si on prend cette dimension-là, et où on pourrait imaginer en effet un partenariat qui ne se résumerait pas à davantage de migrants, loin de là, au contraire, mais où on verrait que chacun a intérêt au développement de l'autre. Comment vous pondérez ces deux scénarios?
Ça dépendra beaucoup de la de l'Europe, de la capacité de l'Europe d'exister. Et là, permettez-moi d'introduire un autre paramètre, c'est que en réalité, dans cette région, on voit le rôle des puissances globales, pour utiliser une expression moderne, plutôt se renforcer que s'atténuer. Les États-Unis sont supposés se retirer du Proche-Orient, mais même quand ils se retirent de quelque part, ils ont une telle puissance qu'ils restent avec une capacité d'influence considérable. La Russie est de retour, comme on le sait, puisque les Russes ont profité de l'intervention en Syrie pour accroître leur audience dans la région.
Et assurer les ports.
Et la Chine arrive d'une manière ou d'une autre.
Elle y est.
Pour l'instant, elle y est économiquement. Elle commence à mettre un pied militaire, Djibouti par exemple. Ses intérêts économiques et surtout énergétiques devraient l'entraîner fatalement, un jour ou l'autre, à avoir aussi une présence militaire. Pour moi, il est donc vital que face à ce retour des grandes puissances, des puissances globales, l'Europe soit présente. Seule l'Europe est à la hauteur de ses concurrents, si je puis dire. Et en plus, si notre cible, c'est les sociétés civiles, c'est le développement des choses comme ça, la construction d'États, de réseaux, d'infrastructures, c'est le créneau sur lequel l'Europe peut le plus compter. Donc je serais, si vous voulez, un militant du soft power européen, au moins dans cette
région. Avec ou sans les États-Unis?
Avec ou sans les États-Unis, qui, un interlocuteur iranien récemment me disait, vous savez, quand les Américains se retirent, ils enlèvent leur base, par exemple, ils retirent leurs troupes, mais ils restent avec la cybersécurité, avec les drones, avec des forces spéciales, avec le renseignement. Donc, on imaginerait difficilement, en tous les cas, à cette échéance, une Amérique qui serait totalement absente.
Est-ce qu'on peut justement, si on se déporte vers le Proche-Orient, essayer de se demander si dans 18 ans, le conflit israélo-palestinien reste un des pôles, un des endroits de clivage importants de cette région et de la politique de cette région, y compris de l'ingérence des grands et du rapport aussi qu'entretiennent les pays arabes avec ce pays qu'est Israël, dont on a peu parlé. Qu'est-ce que peut être Israël dans 18 ans?
Alors écoutez, pour moi j'ai une vue peut-être un peu hétérodoxe. Je crois que de facto, Israël est déjà une puissance globale, ou en tous les cas est sur le point d'être une puissance globale, compte tenu naturellement de ses capacités, de ses succès, mais aussi de la personnalité de Netanyahou, qui a réussi à avoir un dialogue non seulement avec le président des États-Unis, mais aussi avec le président russe, mais aussi avec Modi, l'Indien, avec le Chinois, Xi, et qui situe son pays dans une catégorie un peu différente de celle des autres pays de la région. Et donc, je vois peut-être les Américains se retirer, Israël conservant dans la région un rôle certainement majeur.
Vous avez cité Xi Jinping, Michel Duclos. Marion Messador, la présence de cette Chine en Afrique, on se concentre sur cette région, mais la Chine est tout de même inévitable.
Oui, alors ça c'est sûr que dans la prospective à 18 ans, la Chine est vraiment incontournable et c'est une des rares chose dont on peut être à peu près certain quand on parle de prospective dans la région. On en a beaucoup parlé déjà au cours des dernières années dans les médias français et européens pour la présence en Chine, la présence commerciale et puis militaire plus récemment. On commence à en parler avec du retard pour la présence en Europe à travers leur projet Belt and Road Initiative.
Les routes de la soie.
Les nouvelles routes de la soie.
Et, le grand projet de Xi Jinping.
Qui est un grand projet et qui est un projet à l'échelle quasiment mondiale. C'est un projet unique au cours du siècle et auquel l'Europe commence seulement et timidement à répondre. Et il y a encore un pan qui passe assez inaperçu qui nous concerne directement, c'est l'axe méditerranéen des nouvelles routes qui, lui, est passé un peu, a échappé un peu au radar finalement. La Chine est déjà très présente dans la plupart des ports méditerranéens. Elle a signé des contrats, elle a intégré la plupart des pays de la zone au projet de la Belt and Road Initiative.
Oui, en effet, la Chine est présente déjà en Italie, en Espagne, au Portugal, pas trop au Maghreb encore, mais c'est en train d'arriver. Et en effet, elle est présente. Il y a un paramètre, faut pas négliger, qui montre l'interdépendance de tout cela. C'est la crise climatique qui va jouer un rôle de développement du passage du Nord-Ouest et qui donc pourrait, mais est-ce que c'est à 18 ans ou plus tard, rendre moins intéressant le passage par le canal de Suez et donc peut-être ralentir les travaux d'infrastructure prévus sur le canal de Suez et donc faire que la Méditerranée soit moins intéressante puisque les routes passeraient par le Nord et plus par l'océan Indien et la Méditerranée. Est-ce que ça vous paraît une hypothèse crédible ?
Bien, il y a deux éléments. Déjà, 18 ans, ça me semble relativement court encore pour le pôle Nord. Les puissances régionales ont signé un accord récemment consacrant la région à la recherche pour encore 16 ans. Donc je pense qu'ils ne tablent pas sur une libération de la banquise dans cet horizon de temps. Et par ailleurs, je ne crois pas que si la route se libère, ce qui arrivera un jour ou l'autre, ça invalide totalement la route canal de Suez. Il y aurait plutôt une répartition peut-être plus équitable, mais ça resterait un passage probablement
important.
Stratégique.
Mmh. On parlait de présence militaire en Méditerranée. En 18 ans, est-ce qu'il y aura une présence américaine ? La présence américaine est très étonnante. Hein, pour l'instant, elle est furtive, au sens presque technologique du mot, puisque étonnamment, il y a des tas de réfugiés qui essayent de traverser la Méditerranée. À ma connaissance, jamais un bateau américain n'a ramassé un seul réfugié comme s'il n'était pas là. Donc ça prouve ou ils sont pas là ou ils regardent ailleurs. Donc il y a très peu de bateaux américains en Méditerranée, en tout cas en Méditerranée occidentale. En Méditerranée orientale, il y en a encore quelques-uns. Est-ce qu'il y aura dans 18 ans une marine chinoise ? Est-ce qu'il y aura une marine européenne en dehors de la marine française ? Quel est votre avis sur ce sujet ?
Je pense qu'il y aura une marine chinoise, oui. Parce que les Chinois ont un concept stratégique qui est effectivement de conquérir les mers. Ils analysent pas complètement à tort la puissance américaine comme venant d'abord du contrôle des océans. Et donc, ils sont un peu dans un moment de mimétisme.
2035, ils auront une marine militaire supérieure à la marine militaire américaine de 2035.
Voilà, et on dit qu'ils fabriquent autant de bateaux militaires tous les ans que l'équivalent de la marine française. Et donc, fatalement, ils voudront être partout et ils voudront être en Méditerranée, effectivement.
On n'a pas parlé, il me semble, d'un autre enjeu important de la géopolitique de 2018, de dans 18 ans, mais qui est déjà important en 2019, c'est la cyberguerre. On est en train de vivre un changement de paradigme très important. On sait que des pays comme l'Iran, comme Israël et comme la Chine, évidemment comme la Russie, sont en pointe dans ce registre qui inverse véritablement, d'une certaine manière, les rapports de force.
On ne sait pas, c'est ce qu'il y a de terrible, c'est que la cyberguerre, c'est une guerre dont on ne connaît pas vraiment les armes, et qui, pour l'instant, n'a pas de règles du jeu. Il a fallu la Première Guerre mondiale pour réglementer l'usage de l'arme chimique, et la Seconde Guerre mondiale pour établir les règles de la dissuasion nucléaire. Et donc, tout peut se passer. Ce qui me paraît clair à lire les bons auteurs, par exemple Jean-Louis Gergorin, c'est que effectivement, la Russie, la Chine et les États-Unis ont un temps d'avance, pour des raisons de culture stratégique. D'ailleurs, les États-Unis sont évidemment très puissants, mais ont moins stratégisé l'aspect conflictuel du cyberespace. Et juste derrière, il y a effectivement des pays comme l'Iran et Israël. Donc là, on rejoint la région.
Marion Messador, sur les enjeux militaires, ou en tout cas les choses qu'on peut imaginer avec cette présence d'une nouvelle forme, disons, de force difficile à appréhender.
Alors, je rejoins Michel Duclos sur la présence chinoise militaire. Ça semble incontournable. Ils sont déjà présents au sens où, comme la marine française, ils se promènent de manière pacifique pour montrer leur force. Ils font des haltes. C'est un instrument de soft power, en fait, de la même manière que nous l'utilisons. Et ils seront présents de façon plus hard power, probablement, dans les années qui viennent. La question de est-ce que l'Europe aura une présence militaire, une flotte militaire ? Je ne peux que le souhaiter, à vrai dire. mais ça me semble court au rythme où l'Europe voilà. réagit.
C'est pour ça, c'est là où on s'aperçoit que 18 ans sur ce terrain-là, c'est assez court, parce que on connaît maintenant à peu près les programmes de construction de navires, et il est très difficile d'aller plus loin, et c'est pas Frontex qui va avoir les moyens de créer un troisième ou un deuxième porte-avions européen. Donc on sait déjà que quoi qu'il arrive, nous serons très faibles. La marine européenne sera très faible en 2036-37, sauf une procédure d'accélération historique qu'on ne voit pas. Revenir sur une autre question sur cette région, pour l'avoir. Est-ce qu'on peut imaginer ou craindre une guerre entre pays de la région ?
Vu les conflits qui perdurent dans la région, je pense que tout est possible. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer assez facilement. Il y a une puissance régionale qu'on n'a toujours pas évoquée et qui est quand même très importante, c'est la Turquie, qui était dans des rapports beaucoup plus, disons, souples, faciles avec l'Europe il y a 10 ans, qui est maintenant dans une posture un peu intermédiaire et qui cherche à reconfigurer le jeu géopolitique, qui prend de l'ampleur et qui veut s'installer en tant que puissance régionale. Ce qu'elle sera capable de faire également dans 18 ans est une vraie question. Là, elle génère quand même énormément de conflits, notamment autour de Chypre et de l'exploitation des gisements gaziers en Méditerranée orientale.
Je pense qu'il y aura des guerres. Il y aura des guerres probablement courtes. Il y aura des duels, des incidents, des escalades qui seront maîtrisés, dont on voit un peu les prémices actuellement entre l'Iran et le Golfe. Il y aura un peu l'équivalent entre Israël et l'Iran autour de la Syrie. Mais au fond, ce sera pas je ne crois pas que ce soit une grande guerre régionale. Ouais. Là, c'est toujours pareil, c'est la version conflictuelle par rapport à la version coopérative. On peut imaginer qu'à la fin de cette période de tension marquée de violences très fortes, s'établissent à peu près à cette échéance une sorte d'équilibre, avec une forme de dissuasion entre l'Iran et Israël, et une forme d'équilibre entre la Turquie et l'Iran. Le risque, c'est que ce soit au détriment des sunnites, et que donc ça alimente ce sentiment de frustration couplé à l'extrémisme religieux qui serait une autre forme de bombe dans la région, qui est la bombe terroriste notamment.
Est-ce que, pour sortir de ces risques, de cette analyse des scénarios noirs, on peut imaginer ce que pourrait être en 2037-38 un grand projet fédérateur des pays de la région ?
Ah, le silence en dit long.
Pour l'instant, dans la région dont nous parlons aujourd'hui, on ne voit pas encore se dessiner cet élément de base, d'accord de principe, de compromis élémentaire autour duquel pourrait se bâtir quelque chose. Mais ceci dit, ça peut venir dans les prochaines années.
Marion Messador, vous qui avez travaillé avec des maires de la région, des projets de ce type, à horizon 18 ans.
Alors, je pense que dans la région, il faut un peu se méfier des grands projets. Et surtout s'il ressemble à un projet, d'infrastructure. Au contraire, si on veut fédérer une région qui est quand même très hétérogène, il va falloir autre chose, quelque chose qui a plus d'envergure, probablement. Jacques Attali, vous parliez tout à l'heure de Euro-Méditerranée. Je crois que c'est quelque chose, que l'idée est bonne et que la France la porte depuis assez longtemps. Mais peut-être que ce que l'Europe et la France doivent faire aujourd'hui, c'est peut-être abandonner ce vocable finalement blessant. C'est ce qui ressort de certains de nos entretiens et des travaux, des échanges que nous avons avec les pays de la rive sud.
Euro-Méditerranée, tout simplement, c'est ça.
Voilà, Euro-Méditerranée, c'est finalement Méditerranée revient à trouver un vocable neutre, voire positif, pour désigner une région conflictuelle et désigner ceux d'en face. Et la difficulté est peut-être justement de pas penser que la région Euro-Méditerranée pourrait être concurrente de l'Union européenne, mais que il soit possible de penser deux ensembles qui se superposent. C'est ça qui est difficile, ça n'existe pas tellement ailleurs. Mais je pense que c'est possible en un sens, et que c'est là ce que l'Europe peut faire de mieux, penser Méditerranée.
Vous dites, sans doute à juste titre, que il faut se méfier des grands projets. Ceci dit, il y a deux grandes questions qui vont apparaître de plus en plus et qui sont déjà là à l'échelle planétaire, qui sont l'enjeu des inégalités de revenus et de fortune et l'enjeu climatique. Les deux enjeux sont là. Sur la région, rien ne donne à penser que les inégalités de revenus et de fortune entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée vont se réduire. Ça peut être un grand projet que d'imaginer les réduire. Et ça peut être aussi un grand projet que de se dire, on va sauver ensemble la Méditerranée. Qui est en train d'être détruite
écologiquement parlant.
Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des projets de ce genre qui sont en train de se préparer et qui pourraient voir le jour d'une façon concrète en 2035-38?
En ce sens, j'ai l'impression que l'environnement, c'est un des seuls domaines sur lesquels on arrive à se mettre un peu d'accord en Méditerranée, y compris avec des puissances qui habituellement se parlent peu. Je pense à Algérie, Maroc, je pense à Turquie, Grèce, Chypre, Israël et ses voisins. Il y a des structures héritées notamment du dialogue de Barcelone et qui font des choses, je pense qu'ils font des choses bien et qui peuvent aboutir, et les acteurs locaux à leur échelle font beaucoup de choses. Est-ce que ça suffit pour sauver la Méditerranée? C'est une autre question.
Michel Duclos, et peut-être en élargissant, votre livre s'appelle « Des années de diplomatie impuissante sur la Syrie ». Marion Messador vient de dire que l'écologie peut être un des rares thèmes mobilisateurs sur cette question de la Méditerranée, de l'enjeu écologique, et plus globalement de la manière dont la diplomatie, dans 18 ans, aura ou pas changé.
La diplomatie a eu des succès en 2015, et évidemment le grand succès, c'était l'accord de Paris sur le changement climatique. Ça a été un succès pour différentes raisons, mais notamment parce que on a mis en œuvre une méthode nouvelle qui conserve le pouvoir de décision ultime pour les États, mais qui associe dans la négociation les sociétés civiles, les entreprises, les ONG, les acteurs de la réalité du monde. Et je crois que là, il y a eu une avancée incontestable, très importante, qui de surcroît a permis quelque chose de fondamental pour nos diplomates, qui est le dépassement du clivage nord-sud. Et je crois que cette méthode-là, il est extrêmement important de l'appliquer aux enjeux méditerranéens, c'est-à-dire en mettant autour de la table le maximum de gens possible, même si effectivement, ça ne veut pas dire que les diplomates ou les gouvernements disparaissent, parce que c'est quand même eux qui doivent être les grands organisateurs et qui doivent être, à la fin, les décideurs, bien sûr, mais une décision qui implique le maximum de gens possible et dont la mise en œuvre soit elle-même, à la différence des traités de jadis, une mise en œuvre collective, pas punitive, mais participative. Et là je crois extrêmement dommage que le titre de mon livre est en forme de nostalgie, mais je ne crois pas qu'il faille se résigner à cette nostalgie, parce que je crois que la diplomatie reste essentielle pour pouvoir affronter ces défis du futur.
Merci à vous Michel Duclos. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre « La longue nuit syrienne, 10 années de diplomatie impuissante ». Merci à vous Marion Messador, vice-directrice du programme Méditerranée du GEJ, le groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure. Jacques Attali, nous retrouvons la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Dans 18 ans, une émission réalisée par Christine Robert avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application podcast de votre smartphone. À la semaine prochaine.